Vous écoutez IDFM, il est 10h.
Bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio, Mission Verte. Chaque jeudi de 10h à 10h30, je suis Laurence. Vous pouvez nous suivre sur 98.fm ou sur idfm98.fr. Au programme de ce jeudi 8 décembre, la présidente de l'association Semeurs de Forêt, Florence Massin, elle nous parlera de cette association formidable qui aide un peu partout en région parisienne, mais aussi en province, à replanter des parcelles qui sont en manque de biodiversité en plantant donc des arbres. Si vous voulez en savoir plus, il y a le site semeursdeforêt.org. Puis en fin d'émission, vous retrouverez les chroniques et rubriques habituelles. Merci à vous pour votre fidélité aux ondes d'IDFM Radio. Merci à Francky pour la technique. On se retrouve juste après ça. Et nous retrouvons Florence Massin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de l'association dont vous êtes la présidente. Il s'agit de Semeurs de Forêt. J'invite d'ailleurs nos amis auditeurs qui seraient sur Internet, où on peut vous retrouver sur le site semeursdeforêt.org, Semeurs de Forêt, tout
oui,
attaché.
Ça.
Alors déjà, un mot sur cette association. Elle est francilienne.
Oui, tout à fait. Elle a démarré à Enghien-les-Bains.
Ah bah.
Donc on est en plein milieu là. Donc en fait l'association elle va bientôt avoir 4 ans. Elle a été créée en janvier 2019 suite en fait à différents événements qui ont fait qu'on avait envie de faire quelque chose pour l'environnement, pour le climat, pour tout ça. Et on s'est au lieu de rester sur son canapé en train de refaire le monde, on s'est dit si on créait quelque chose et on a monté l'association. Et on était 2 au départ, plus quelques voisins, quelques amis qui nous ont rejoints pour partir dans l'aventure. Et ensuite, on a commencé à la création de l'association, quelques mois plus tard, on a acheté un premier terrain parce que le but de l'association, c'est d'acheter des terres et de les reforester.
Oui, parce que on peut déjà rappeler, vous faites sur le site, et puis évidemment au sein de votre association, un constat. Celui-ci, c'est que l'état des lieux des forêts sur le territoire français n'est pas celui qu'il semble être selon les chiffres, comme quoi la surface du territoire est peut-être plus importante de forêts depuis des décennies, mais il y a un mais, l'état de ces forêts n'est pas idéal parce que ce sont des monospécifiques, c'est-à-dire ce sont une seule espèce d'arbre qui fait qu'il n'y a plus aucune biodiversité.
Alors en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on constate, ça c'est les chiffres de l'IGN, donc l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. En fait, depuis les années 80, il y a la superficie forestière en métropole, elle n'arrête pas de progresser. On table environ sur du 0,7% par an de progression au niveau forêt.
On penserait que c'est de l'extérieur, on se dit c'est formidable. Des forêts, c'est formidable.
Oui. Or, ça a l'air formidable.
Voilà.
Mais quand on regarde d'un peu plus près, ce qui se passe, c'est que on parle plus de malforestation. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des forêts qui, majoritairement, on parle quand même de plus de 80% des forêts en France sont formées de 2 essences, voire moins. Donc, soit une, donc on est monospécifique, on est sur du chêne, on est sur
du pin de glace,
sur du hêtre, etc. Mmh. Mais on peut avoir effectivement une double essence dans la forêt, mais c'est essentiellement pour l'exploitation forestière. Et ça a un impact sur la biodiversité. Donc, parce que il y a tout est fait pour faire du bois et non pour pouvoir avoir de belles forêts en fait. Donc, et nous de ce constat, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de créer des forêts multi-essences.
Oui, parce qu'on peut rappeler le fait que ce soit donc des forêts avec très peu d'espèces fait que le sol s'appauvrit. Et qu'au final, plus rien ne va pousser derrière, parce que on a vu l'exemple avec les Douglas, ces fameux pins qui sont très productifs parce qu'ils ont très peu de temps de croissance, et du coup on les coupe rapidement, et du coup à la fin le sol s'épuise, et à la fin il y a, ce sont des zones rases où on voit plus que maintenant des, une espèce de paysage lunaire ou presque. C'est vraiment des décors assez terribles que l'on découvre surtout dans l'est de la France. Il y a eu un documentaire formidable dessus, et c'est ce que vous nous rappelez, c'est que on voit ces forêts, on croit qu'il y a une vie, alors qu'en fait ce sont des rangées, on peut voir à travers, il y a rien d'autre qui pousse, il y a pas un animal qui passe, on n'entend pas un oiseau voler. C'est assez terrible, parce que c'est un, je dirais pas un cimetière, parce que c'est faux, parce que c'est du vivant, l'arbre, mais c'est pas ce qu'on attend d'une forêt, c'est-à-dire un capteur de CO2, un endroit où la biodiversité est formidable. Là on en est loin. Du coup, donc vous faites ce constat, et ensuite donc vous avez cette mission d'acheter des parcelles afin de pouvoir planter un maximum d'espèces d'arbres qui puissent redonner vie à l'endroit.
Oui, c'est ça l'objectif. Alors pourquoi acheter? Parce que en fait, ce qui se passe souvent, c'est que on découvre aujourd'hui en France quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives de micro-forêts, de forêts urbaines, de tas de choses comme ça. La seule problématique qui se passe, c'est que en fait, lorsque on plante sur des terrains qui sont donnés ou en tout cas accordés par des municipalités ou même par des propriétaires privés, on ne sait pas ce qui va se passer dans la durée. Il faut savoir quand même, et ça paraît un peu évident ce que je vais dire, mais un arbre, ça vit quand même plusieurs centaines d'années. Donc, et lorsque il y a une municipalité qui se dit, on va laisser quelques citoyens un petit espace, regardez, vous pouvez planter vos arbres. Alors ça, c'est formidable, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Sauf que pour moi, il y a une problématique de pérennisation. Donc, il suffit que finalement la mairie passe dans un autre courant politique et que le nouveau maire décide effectivement de se dire, nous, il nous manque une médiathèque ou des logements sociaux ou je ne sais quoi. Et puis, la forêt qui a été plantée, les arbres qui ont été plantés disparaissent, en fait.
Oui, l'expropriation est probable, alors que vous rappelez d'ailleurs sur votre site que c'est plus compliqué, hein, lorsqu'on est une association avec un nombre d'adhérents important qu'un particulier isolé, d'où la pérennisation d'une association. Et ce qui est formidable aussi, c'est que vous avez choisi une méthode qui a vraiment montré la qualité, hein, de sa finalité. C'est la méthode Miyawaki. Je sais pas trop
écorché. Alors de Akira Miyawaki. Voilà. Alors c'est un botaniste japonais et qui a mis en place une technique de plantation forestière et en fait où il y a tout un travail du sol, il y a en fait l'objectif de cette technique, c'était de réhabiliter des sols qui étaient abîmés, notamment des sols urbains. Et nous, on est parti avec cette technique parce que au départ, on n'y connaissait pas grand chose. Et on s'est dit, on va s'appuyer déjà là-dessus. Donc, on s'est beaucoup renseigné, on s'est formé, on a cherché, etc. Et puis, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu acheter, c'est un peu plus difficile d'acheter au sein d'une ville ou d'une commune. Donc, en tout cas, au niveau de l'Île-de-France. Et donc, on est un peu parti dans les départements voisins et on a acheté surtout en milieu agricole et près des communes, mais ça reste qu'on est en milieu rural. Et la méthode Miyawaki est très très bien, excepté le fait qu'elle n'est pas forcément adaptée pour les grandes surfaces et les sols qui sont déjà vivants.
D'accord. Mais c'est une méthode qui a donné des fruits et qu'on peut s'en inspirer.
Tout à fait. C'est une technique qui est complètement adaptée à de la reforestation en milieu urbain.
Et ça donne de l'espoir.
Hein, pour l'adapter.
Et ça donne de l'espoir donc pour les citadins qui se disent on verra plus de notre vivant, parce qu'on imagine une forêt, ça demande des décennies voire des siècles pour se reformer. Là, avec cette méthode, on se dit de notre vivant, si on a la quarantaine passée, on verra une forêt dans une quinzaine, vingtaine d'années, c'est possible. Il faut donner de l'espoir. Disons que parce qu'on pense surtout, là, on est dans le Val d'Oise, la forêt de Montmorency qui a vu donc cette maladie de l'encre qui fait des ravages auprès des châtaigniers. On voit des zones rases, hein, c'est assez terrible. Il y a deux trois chênes au milieu qui sont un peu apeurés et on se dit on a 40 ans, est-ce qu'on reverra une forêt de notre vivant?
Alors le milieu forestier là sur toute l'ONF qui s'occupe de la forêt de Maman aussi, qui sont en train de replanter en même temps. Mm-hmm. Bien sûr qu'on verra dans 40 ans des arbres hauts, etc. Après, faut savoir quand même faire une différence entre une plantation et une vraie forêt. Mm-hmm. C'est un peu la problématique qu'on peut rencontrer, c'est que une plantation d'arbres n'est pas une forêt. Et il y a une différence en fait. Donc une plantation d'arbres, c'est on a planté des arbres, mais pour que ça devienne une vraie forêt, il faut qu'il y ait certains éléments et surtout du temps pour que ça devienne ce qu'on appelle un écosystème. Et un écosystème, c'est biodiversité qui s'installe, qui fait effectivement il y a des liens qui se mettent en place, etc. Et la problématique qu'on rencontre, c'est que les gens font beaucoup de confusion. Donc oui, dans 40 ans, celui qui plante un arbre verra son arbre effectivement évoluer de façon de plus en plus grand, etc. Mais une forêt, c'est autre chose que ça. Donc c'est pas juste. Cette technique, elle apporte des tas de choses. Mais il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte.
Elle ne peut pas s'appliquer à partout. Alors votre mission, on y revient. Vous travaillez à la fois sur la région francienne, même si c'est très compliqué d'avoir du foncier, mais aussi un peu partout ailleurs. Ouais. C'est ça qui est formidable. On peut vous retrouver partout. On peut vous retrouver en province.
Oui, c'est-à-dire qu'on a développé, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement le foncier était très compliqué à obtenir, surtout au niveau prix, autour de l'Île-de-France. Donc ce qu'on a fait au bout d'un moment, c'est le premier terrain qu'on a acheté était dans l'Oise, et toujours dans l'Oise d'ailleurs, et en fait on a mis en place tout un système de personnes relais. Donc on les a appelés des porteurs de projet. Et ce sont des personnes finalement qui sont sur place, donc dans les différents départements dans lesquels on est aujourd'hui. Et ce sont vraiment des relais, c'est-à-dire qu'ils vont gérer les équipes bénévoles, ils vont gérer les arrivées des arbres, ils vont gérer les plantations. Alors bien sûr, nous on va être là au tout début et on va vraiment amorcer le processus. On va apporter ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, etc. Mais c'est surtout eux, on va vraiment s'appuyer sur eux comme vraiment une forme de relais. Et du coup, ça permet de s'étendre sur la province et de faire une sorte de réseau.
Alors pour cela, on peut devenir soi-même adhérent ou travailler avec vous d'une manière ou d'une autre, qu'on soit donc francilien ou provençal. On va sur semeurdeforêt.org, on clique sur j'adhère, je donne. En tous les cas, on parcourt le site et on trouvera forcément à un moment un endroit où on peut se rapprocher de vous.
Oui, tout à fait.
Mais vraiment, vous faites pas de distinction. On peut être de région parisienne ou d'ailleurs.
Ah oui, bien sûr. Après, nous, pour l'instant, on en est au quatrième terrain qu'on est en train d'acquérir là en ce moment. On est présent pour le moment dans l'Oise, dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres et dans l'Eure. Donc on est encore sur plutôt la partie nord, mais on a vraiment l'objectif d'aller beaucoup plus loin. Donc bien sûr, si quelqu'un se dit moi j'ai envie de participer mais je suis plus dans le centre de la France ou plus au sud, il y a des possibilités. On peut faire quelque chose.
Alors on a vu cet été ce qui s'est passé dans les Landes. On voit aussi donc ce réchauffement climatique de plus en plus important et puis ces essences d'arbres qui souffrent du manque d'eau et de ces fortes chaleurs. Vous réfléchissez aussi donc aux nouvelles espèces à planter?
Alors oui, on y a réfléchi. Alors pour l'instant, je pense qu'on va encore y réfléchir un petit moment. C'est-à-dire que il y a deux voies qui se profilent. La première, c'est ce qu'on appelle de la migration assistée. C'est-à-dire que les arbres, d'eux-mêmes, de façon très naturelle, migrent. Ça paraît curieux, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on part du principe, les études ont montré qu'ils migrent environ 300 mètres par an. Donc avec l'expansion des graines, etc., le déplacement de leurs graines, tout ça. Donc, et là, ils sont en train de migrer vers le nord. Mais le réchauffement climatique est tellement rapide que les arbres risquent de ne pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir migrer de façon optimale. Donc, ce qui se passe, c'est au sein de l'ONF, par exemple, ils ont des projets depuis plus de 10 ans de migration assistée, où ils prennent des graines qui se trouvent au sud et ils les ramènent au nord. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Ils mettent ils créent ce qu'on appelle des îlots d'avenir pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Et nous, il y a une autre voie aussi qui se présente. Et on ne sait pas du tout comment ça va se faire. C'est-à-dire que chez les forestiers, que ce soit l'ONF, que ce soit n'importe où, on ne sait pas trop comment ce qui va se passer, en fait. Donc, l'autre voie, c'est d'accepter que les arbres, ils vont aussi évoluer de leur côté, qu'il y aura pas mal de pertes. Mais il y en a certaines avec le patrimoine génétique, etc., et l'adaptation et la résilience. Il y a certaines essences qui vont s'adapter au réchauffement. Et nous, on part plus sur cette voie-là. Parce que nous, on plante du multi-essence déjà. On n'a pas les mêmes objectifs que les forestiers. C'est-à-dire que les forestiers, ils cherchent à faire du bois. Nous, on ne fait pas du bois. Donc, on laisse les arbres, lorsqu'on les plante, on les laisse. C'est un endroit de biodiversité. Et c'est une sorte de sanctuaire de biodiversité. Donc, on les laisse tranquilles. Et ensuite, ça fait sa vie. Et il y a plein de choses qui se jouent dans cette histoire. Et en fait, il faut savoir que nous, on plante essentiellement des essences locales et indigènes, et pour une bonne raison. C'est-à-dire que quand vous plantez une essence exotique qui vient de je ne sais où, mais qui est complètement adaptée au réchauffement climatique, vous oubliez qu'il y a aussi tout un domaine faunistique. Il y a tous les animaux qui finalement se nourrissent à travers ces arbres. S'ils ont une espèce exotique, ils vont pas se nourrir, ils vont disparaître. Donc il faut aussi penser écosystème. C'est-à-dire que c'est quand on plante non local, on oublie qu'il y a des animaux qui ont besoin de ces arbres pour pouvoir subsister.
Oui, pour se nourrir,
se loger.
Donc
nous, on joue cette carte-là. Mais il y en a d'autres qui vont jouer une autre carte. Mais pour l'instant, on en est là.
Très bien. Alors, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, on rappelle semeurdeforêt.org, c'est le site. Comme vous êtes une association, les dons sont déductibles. C'est important
c'est
aujourd'hui dans cette époque d'inflation et de difficultés financières.
Ils sont déductibles à 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises.
Et qu'en ce moment même, vous êtes toujours sur plein de projets qui sont évidemment le nerf de la guerre, toujours l'argent, et que celles et ceux qui peuvent vous aider seront toujours les bienvenus, que ce soit des particuliers ou des entreprises.
Oui, tout à fait.
Vous êtes ouvert à toute proposition et qu'en ce moment donc vous avez sur le site semeurdeforêt.org plein d'informations sur ce que vous faites. Vous avez vraiment des belles initiatives pour amener le plus de gens à votre cause et puis évidemment trouver ces fameux terrains qui pourront donner vie à de nouvelles forêts en France, et c'est ce qu'on souhaite pour notre avenir, pour celle de nos enfants. Merci à vous, Florence Massin. Qu'est-ce que on peut dire pour les fêtes de fin d'année aux gens qui aient de l'espoir malgré cet été compliqué pour nos forêts?
Oui, bien sûr que faut garder espoir, et puis je crois qu'en fait le mot de la fin, c'est toujours se dire qu'on fait partie de ces écosystèmes et qu'on a tous un rôle à jouer dans l'histoire. Parce que moi j'entends beaucoup de personnes me dire oui, c'est pour la planète, c'est pour la forêt qu'on fait ça, etc. Non, c'est pas pour la planète, c'est pas pour la forêt, c'est pour l'humanité. Parce que la Terre, elle continuera à tourner. Les arbres, ça fait juste plus de 500 millions d'années qu'ils sont là. Ils ont beaucoup évolué, ils ont vécu des cataclysmes beaucoup plus importants que celui-là. Donc ils sont toujours là. L'homme, je sais pas. Donc il faut vraiment se dire qu'on a tous un pouvoir et qu'on peut tous se mettre en route. Et c'est ça qui va créer l'espoir.
Et que les franciliens qu'ils aillent en forêt, il en existe en région parisienne, qu'ils se rendent dans ces forêts, parce qu'on y trouve une certaine énergie, on se sent vraiment mieux quand on ressort d'une forêt, parce que il y a du vivant, il y a cette capacité à voir loin et à revenir en arrière, parce que ces arbres sont là depuis tellement d'années avant nous, et qui seront peut-être, on le souhaite, après nous, vraiment, j'appelle nos amis auditeurs, allez en forêt, mettez-vous devant un chêne, prenez-le dans les bras, je sais pas, vous verrez, vous sentirez tellement mieux après, et évidemment faire attention à sa consommation. Moins on consommera de papier, moins on consommera d'énergie, bah mieux ça sera aussi pour nos forêts, parce qu'il y a cette stratégie, hein. On rappelle hein, aussi, de cette exploitation forestière.
Dans une certaine sobriété énergétique, de faire attention et dans sa consommation aussi, bien sûr. Tous ces gestes-là qui vont permettre d'aller vers cet espoir et de faire en sorte que les choses aillent correctement.
Et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses hein, à cette association qui, on rappelle, n'a que 4 ans, hein, mais qui, j'espère, aura encore de très beaux projets dont on pourra parler dans l'émission. Merci à vous, Florence Massin. Semeur de forêt, c'est le nom de l'association. Semeurdeforêt.org, c'est le site internet où on peut s'y rendre hein, pour aller voir votre mission, vos engagements. Il y a même un blog, il y a des réseaux sociaux. Et pour celles et ceux qui veulent adhérer, que vous soyez donc particulier, association, entreprise, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Merci encore à vous, à bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
J'ai donné, j'ai reçu, j'ai compté, j'ai perdu. Avec toi, j'ai tout vu, mais j'ai vécu. Entre tes doutes et mes craintes, tant de mensonges et de feintes. Mais sais-tu seulement comment m'attendre? Oui, de là.
Vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio, on va parler dans Mission Verte et d'économie d'énergie. Et dans Ça m'intéresse de novembre, vous avez peut-être lu l'article « Et si on s'inspirait des anciens ?» Vous savez, la sobriété énergétique donne l'occasion de remettre au goût du jour des gestes de bon sens pratiqués depuis des générations. Comme à l'époque, bon, il n'existait pas vraiment les douches, mais le gant néanmoins. On peut quand même garder le confort de notre époque en prenant donc des douches plutôt que des bains. Il y a aussi l'idée de bien régler son ballon d'eau chaude. Vous savez, un ballon de 200 litres consomme 285 euros d'électricité par an, selon l'ADEME. Il est souvent réglé à 60 ou 70 degrés le mètre sur 50. Il ne présente pas de risque de bactéries et surtout permet de réaliser des économies à la clé quelques dizaines d'euros de moins sur la facture en cas d'absence de plus de 3 jours. Il est même conseillé d'éteindre le cumulus, sauf s'il fait évidemment trop frais. Il se trouve dans une pièce froide, le garage, mais mieux vaut donc l'isoler avec des couvertures, par exemple. Il est aussi revenir à la lessive en poudre. Il paraît que ça ferait des économies dans le porte-monnaie. Vous avez aussi... vous savez, les déshumidificateurs d'air qui aident à faire chuter le taux d'humidité responsable de la sensation de froid, mais aussi sachez hein, que l'humidité peut provoquer des maladies, donc n'hésitez pas à faire à ouvrir au grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes, ça fait baisser donc ce taux d'humidité et surtout ça aide à renouveler l'air sans refroidir les murs, car 5 à 10 minutes ça permet surtout de renouveler l'air. Sachez aussi qu'il y a des conseils comme pour que la chaleur se diffuse bien, éviter de positionner des meubles devant le radiateur, penser à épousseter régulièrement les chauffages électriques car l'accumulation de poussière réduit leur performance. Il y a aussi de placer un réflecteur de chaleur entre un mur mal isolé et l'appareil. Alors Réflecteur, en fait, c'est un panneau ou un film aluminium qui évite la déperdition de chaleur. Elle peut même absorber cette chaleur par la paroi en la renvoyant dans la pièce. Alors, selon l'ADEME, ce système réduit même la facture de chauffage de 7,5%. Et ce, à peu de frais, car un panneau vaut quelques euros. Il y a aussi des gestes comme remplacer un vieux lampadaire halogène par un LED. Ça peut réduire la facture de 19 euros par an selon EDF. Il y a aussi l'idée de réduire la température pour dormir de 16 à 18 degrés. On dormirait mieux d'après les experts, car le corps a besoin d'un peu de fraîcheur, de se rafraîchir pour mieux récupérer. Il y a aussi se calfeutrer en mettant, vous savez, ces chiens de porte, ça bloque l'arrivée d'air, et ça permet donc de garder la chaleur dans la pièce. Il y a aussi plein d'autres conseils, hein. Je vous invite à découvrir le Ça m'intéresse du mois de novembre. Il y a même les idées vieilles comme le monde, comme la bouillotte, ou cuisiner en mettant des couvercles sur les casseroles. Alors n'hésitez pas à aller voir cet article, ou tout simplement le bon sens commun, ou les vieux trucs de grand-mère. Vous êtes toujours à l'écoute de Mission Verte. Alors, quelques astuces pour les fêtes de fin d'année plus écolo. Vous savez, vous pouvez tout d'abord commencer par dématérialiser le calendrier de l'Avent, qui est désormais très commercial, avec du chocolat ou d'autres gadgets. Le plus simple, c'est reste un calendrier d'activité avec une liste simple. En fonction des jours de la semaine et du week-end, on peut notamment y mettre des activités en lien avec la cuisine, comme le premier, on fait du pop-corn, le 2, on prépare des cookies. Bref, on peut ainsi faire de ce calendrier un calendrier d'activités. Autre idée, c'est de faire des décos en orange séché. Il suffit de faire sécher au four des tranches d'orange, pas trop fines, pendant 1 à 2 heures à 150 degrés, ou près d'une cheminée, si vous en avez une, ou près d'un radiateur. On peut ensuite les attacher avec de la ficelle pour faire des décorations pour le sapin ou la maison, ou encore une guirlande. Elles se gardent très bien d'une année sur l'autre si elles sont bien sèches et emballées dans du papier. Cela peut d'ailleurs fonctionner avec d'autres agrumes. Alors vous avez aussi, pour décorer la table, on peut récupérer de la déco chinée. Il existe plein d'objets à détourner, comme les bocaux, où on peut écrire le menu avec un stylo craie ou un feutre adapté, y mettre une guirlande lumineuse à l'intérieur. On peut utiliser des vases pour y mettre des branches de sapin ou de houx, ou encore faire flotter des bougies. Autre idée, surtout en cette période d'inflation, c'est offrir du fait maison. Il y a quantité de cadeaux maison à offrir, et la nourriture est toujours une bonne idée, notamment pour les petits cadeaux. Par exemple, vous avez le fameux kit SOS Cookies avec tous les ingrédients secs nécessaires à la réalisation de cookies. La personne n'aura plus qu'à ajouter le beurre et les œufs. On n'oublie pas évidemment de mettre la recette sur l'étiquette, ou encore un kit pour camembert rôti avec un petit pot de miel ou du romarin. C'est formidable. Ce sont des cadeaux faciles à personnaliser et qui font toujours plaisir. Et avant de se quitter, je vous rappelle que nous étions en début d'émission avec la présidente de l'association Semeur de Forêt, Florence Massin. Je vous invite à aller sur leur site semeurdeforêt.org. On se quitte donc avec cette citation de Charles Darwin: les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On va méditer dessus toute la semaine avant de retrouver Sabrina au cœur de l'association. Merci encore pour votre écoute. Merci à Francky pour la technique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site tfm98.fr. Bonne journée sur les ondes. Au revoir. We'll be right back.